place publique.
Peut-on nourrir de force un détenu qui fait la grève de la faim et qui risque de mourir ? On se pose la question alors que Peter K, surnommé le forcené de Bienne, refuse de s'alimenter depuis plus d'un mois. Un expert nous dira tout sur le droit des détenus, qu'ils soient sains d'esprit ou non. La Poste cherche à rationaliser ses coûts et ça ne plaît pas à tout le monde. Chaque fermeture d'office postal est vécue comme un arrachement par une frange de la population attachée aux services de proximité. Nous verrons si la tendance est inéluctable et quels sont les moyens pour les consommateurs afin de faire pression. En dernière partie d'émission, nous ferons pleuvoir les confettis et nous porterons les masques. Carnaval a débuté dans plusieurs communes jurassiennes. L'occasion de retracer aussi l'histoire de cette tradition très appréciée et d'en rappeler surtout le sens. Enfin, pour rire ou sourire, Céline Favre est notre chroniqueuse cette semaine. Vous allez retrouver sa chronique tout à l'heure.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Et bonsoir à tous. Jusqu'où vont les droits des détenus ? Peuvent-ils, par exemple, mener une grève de la faim jusqu'à en mourir ? La question se pose avec Peter K, vous savez, ce retraité biennois qui a défrayé la chronique en 2010 et qui refuse depuis plus d'un mois de s'alimenter. Alors la justice bernoise avait conclu à son irresponsabilité et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle après qu'il l'avait grièvement blessé un policier alors que les forces de l'ordre encerclaient sa maison. Il s'en était suivi une cavale de 8 jours. Alors aujourd'hui, ça fait plus d'un mois que Peter K ne s'alimente plus, il demande à être transféré dans une prison à Thun plutôt que dans une unité d'enfermement psychiatrique. Une demande pour laquelle les autorités bernoises n'entrent pas en matière, mais elles tentent tout de même de raisonner Peter K et en cas d'échec, elles n'excluent pas de le nourrir de force pour éviter une issue fatale. Alors de quoi s'interroger de façon plus générale sur les droits dont disposent les détenus, y compris, voire surtout quand ils sont atteints dans leur santé psychique. Avec nous, Damien Scalia, merci d'être avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du droit international pénal, notamment en ce qui concerne l'univers carcéral. Vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi chargé de cours dans les universités de Genève et Lausanne. Alors, la grève de la faim en prison, est-ce un droit pour le détenu ?
Alors, la grève de la faim en tant que telle, oui, c'est un droit qui est reconnu au niveau international. Et ces personnes ont le droit s'ils sont informés et si le consentement est libre. Et ça, c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir pression dans un sens ou dans un autre, ni par les autorités, ni par des co-détenus dans le cas de grève de la faim qui ne serait pas individuelle mais collective.
Quand la responsabilité du détenu est mise en cause parce qu'il ne serait pas, il n'aurait pas tout son discernement, est-ce que là, le droit peut être annulé ?
Alors annuler, je ne sais pas, parce qu'on peut difficilement annuler un droit de cet ordre-là, parce qu'on a quand même une impérativité de ces droits. Maintenant, il est vrai que quand la personne n'a pas le discernement, le problème, c'est que la décision doit revenir à quelqu'un d'autre. Et en fait, on en revient à cette question du consentement libre. Est-ce qu'une personne qui n'a pas les facultés ou qui est déclarée comme telle par les thérapeutes ou les médecins peut avoir un consentement libre par rapport à la grève de la faim ?
Apparemment, la Cour européenne des droits de l'homme, même si elle n'a pas vraiment tranché, il semblerait, sur le cas de l'affaire Rapa, c'était un autre détenu en Suisse romande qui avait fait une grève de la faim, elle semble donner raison aux autorités qui veulent préserver la vie d'un individu quand celle-ci est en danger.
Alors c'est compliqué. Effectivement, il y a deux droits qui se mettent en concurrence. En fait, c'est l'obligation pour les États de sauver la vie de quelqu'un, et donc une personne qui est détenue, l'État doit tout faire pour que cette personne ne souffre pas et pour qu'elle ne meure pas. Donc il y a vraiment ce droit à la vie qui s'oppose ici au droit à chacun de faire ce qu'il veut de son corps, en fait. On le voit dans les traitements médicaux, il est interdit très clairement d'obliger un traitement médical contre la volonté de quelqu'un. Mais en fait, par rapport à l'alimentation forcée, on est dans un cas qui est tout à fait identique. Et le fait est, c'est que la Cour européenne, comme vous le dites, n'a pas tranché très clairement. Ce qu'elle a par contre dit tout à fait clairement, c'est qu'il n'est pas possible d'atteindre à la dignité de la personne. Donc on ne peut pas alimenter de manière forcée, sous forme de traitement inhumain, c'est-à-dire avec des tubes, c'est-à-dire en gavant la personne comme on a pu le voir. On ne peut pas forcer quelqu'un, s'il y a traitement inhumain, à manger, en fait. Par contre, il est vrai que la question s'est posée dans le cas de Monsieur Rapaz, la question de savoir est-ce qu'on peut le faire sans atteindre à la dignité de la personne, la Cour là répond que c'est possible. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau international, tout le monde n'est pas d'accord, et notamment l'Association mondiale médicale, elle, n'a pas le même point de vue que la Cour européenne des droits de l'homme. Et à partir du moment où il y a un consentement libre et éclairé, où la personne est informée avant de commencer la grève des risques, et quand on dit des risques, il y a la vie la personne peut mourir, mais aussi des risques en termes de souffrance, parce qu'une grève de la faim est très douloureuse à partir d'un certain stade. Si la personne est informée correctement, l'Organisation médicale mondiale estime que la personne, on doit accepter ce qu'elle a décidé, à savoir de se laisser mourir sans manger.
Sans forcément parler uniquement de grève de la faim, lorsqu'un détenu qui est en prison n'a pas tout son discernement, a peut-être une pensée rationnelle, mais est déclaré irresponsable, il est donc détenu, mais plutôt dans une unité psychiatrique, est-ce que de fait, il ne perd pas tous ses droits, puisque sans doute, en tout cas c'est le cas de Peter K, il n'y a pas grand monde autour de lui pour le défendre, Peter K n'a pas d'avocat, est-ce qu'on peut penser que cet individu, dans les faits, n'a plus vraiment de droits ?
Alors en tout cas, il a des droits et l'État en tout cas a des devoirs face à la privation de liberté de cette personne, notamment le fait qu'on n'atteigne pas sa dignité, qu'il soit enfermé dans des conditions humaines et respectueuses de la personne. Donc il ne perd pas ses droits. Les droits sont pas ici ne sont enfin on ne les perd pas. Par contre la question c'est qui va les mettre en avant si lui n'a plus discernement. Et c'est vrai que là les autorités doivent se tourner vers le corps médical, doivent se tourner vers des comités d'éthique pour répondre à la question. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait problématique, on le voit assez régulièrement. Maintenant, si la personne, et je ne connais pas le cas tout à fait précisément, mais si la personne arrive à donner son point de vue ou donne son point de vue par rapport à la grève de la faim et son choix, j'aurais tendance à dire que son choix doit être respecté. S'il a bien compris, et c'est là que ça va jouer en fait la question juridique, s'il a bien compris les risques liés à cette grève de la faim.
Damien Scalea, merci infiniment d'être venu commenter ce droit qu'ont les détenus en prison. S'ils, par exemple, ils entreprennent une mesure extrême comme la grève de la faim, vous êtes, on le rappelle, spécialiste du droit international pénal, vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles. C'est une affaire qu'on va suivre et on ne manquera pas de vous faire réagir s'il devait y avoir des développements. Bonne suite de soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne soirée, merci.
Et il est temps de s'informer maintenant avec vous, Raphaël Girardin.
Bonsoir. Le président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois est fâché contre la politique agricole fédérale. Bernard Leuenberger l'a fait savoir hier lors des assises annuelles. Il dénonce notamment des exigences toujours plus élevées imposées aux agriculteurs et des changements trop rapides avec de nouvelles adaptations à mettre en place tous les 4 ans. Bernard Leuenberger en a aussi profité pour parler du prix du lait, un problème majeur pour les acteurs du milieu. Les négociations sont difficiles autour de prévoyance.ne, la caisse de pension cantonale neuchâteloise. L'enjeu porte sur l'adaptation du système de financement des retraites pour les employés de la fonction publique. Le syndicat des services publics Région Neuchâtel n'est pas content. Il accuse les employeurs de décharger tous les risques sur les assurés. Ce nouveau système porterait à une baisse de rente pouvant aller jusqu'à plus de 20%. 30 jours amende à 90 francs avec sursis pendant 3 ans, c'est la sanction dictée ce matin par le tribunal de première instance de Porrentruy à l'encontre d'un homme. Il a été reconnu coupable de voies de fait, menaces et contraintes. Il avait notamment violenté son ami et la fille de son ami entre 2011 et 2016 en Ajoie. L'audience s'est déroulée sans avocat. Il n'y a pas eu de podium pour les Suissesses lors du combiné de ski alpin de Crans-Montana. Wendy Holdener a finalement pris la 4e place cet après-midi. L'épreuve valaisanne de Coupe du Monde a été remportée par l'Italienne Federica Brignone. Et pas de grand sourire non plus dans l'équipe suisse masculine. Beat Feutz a été le meilleur helvète lors de la descente de Coupe du Monde de Kvitfjell en Norvège. Le Bernois a pris la 7e place à 41 centièmes du vainqueur, le Slovène Bostian Kline. Et ce soir, le ciel sera de plus en plus clairsemé et sec dans l'ensemble. Attention tout de même au retour du froid avec du gel possible. Demain, des bandes brouillard recouvriront les plaines avec une dissipation prévue à la mi-journée. Au-dessus, c'est le soleil qui fera la loi. Côté température, Météo News annonce entre moins et 9 degrés en plaine et entre moins 4 et 6 degrés à 1000 mètres.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Et il est temps d'accueillir Céline Favre. Vous nous avez rejoint. L'affaire Peter K, c'est un peu la réalité, si on veut bien, qui dépasse la fiction.
Absolument. Donc le fameux Peter K, celui qu'on a surnommé le forcené de Bienne. Ça sonne assez Chessex comme ça, hein, le vampire de Ropra, le forcené de Bienne. Il y a peut-être un bouquin d'ailleurs à faire là-dessus. Alors Peter K en ce moment n'est pas content. Et l'histoire l'a prouvé, quand Peter K n'est pas content, eh bien il fait du bruit. On se souvient tous qu'il y a quelques années, il avait refusé de quitter sa maison qui devait être vendue aux enchères. Et quand Peter K n'est pas d'accord, il l'exprime à sa façon. Il n'est pas du genre à dire « Écoutez, non, cette décision ne me convient pas, mettons-nous autour d'une table entre gens civilisés et dialoguons, nous allons bien finir par nous, par trouver une solution raisonnable et pourquoi pas conforme au droit suisse. » Non, Peter K, quand il n'est pas d'accord avec une décision de justice, eh bien, il sort son arme, ouais, il sort son arme et il tire. Et il se dit après tout « Merde, allez tous vous faire voir, là au moins vous aurez compris mon désaccord. » Et Peter K, ma foi, il est quand même assez fort, parce que même encerclé par la moitié de l'armée suisse, eh bien, il a réussi à s'enfuir et à se faire la belle pendant plus d'une semaine, réunissant au passage autour de lui un fan club qui avait créé des pages Facebook de soutien en l'honneur de, je les cite, le Rambo biennois et autres Chuck Norris suisses, se félicitant qu'ils réussissent, là encore, je les cite, à niquer la police. Alors peut-être qu'eux aussi mériteraient une petite expertise psychiatrique. Bon, sauf qu'il s'est quand même fait choper. Et là, ni une ni deux, il a été jugé irresponsable. Toi, mon gars, t'es pas net, l'internement, tu vas pas y échapper. Sauf que là encore, Patrick K, non, c'est pas vrai, Peter K, mais enfin, ça change, hein. On en parle trop peut-être. Sauf que là encore, Peter K n'est pas d'accord. Peter K veut être jugé responsable. Il savait ce qu'il faisait, mais pas à n'importe quelle condition, s'il vous plaît. Il veut être jugé responsable, mais innocent. Alors bon, moi je le comprends un peu, on peut pas vraiment lui reprocher d'essayer. À sa place, peut-être que moi aussi je l'aurais tenté celle-là. Alors, voulant être jugé responsable mais innocent, Peter K nous indique quand même d'abord qu'il est un homme et de mauvaise foi, mais surtout qu'il n'est pas tout à fait net. On a déjà vu mieux comme défense. N'ayant pas fait assez de bruit à son goût jusqu'ici, Peter K refait parler de lui avec la seule arme qu'il lui reste contre les autorités judiciaires, et il dégaine le chantage émotionnel, il refuse de se nourrir. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'est pas fou, il est juste affamé, mais pas question pour lui de se retrouver avec des tarés, c'est pas son monde ça, non, c'est pas son monde. Lui, il veut aller dans une prison ordinaire. Alors Peter, si tu m'écoutes, écoute-moi justement, rassure-toi, si tu te retrouves avec des fous, dis-toi que eux aussi, comme toi, ils sont innocents, ils sont sains d'esprit et victimes de la société. Dis-toi que nous, on s'est attachés à toi. Peter le tireur, Peter le fugitif, Peter refuse de s'alimenter. Il ne manque pas grand-chose pour que tu rejoignes le panthéon des grands ouvrages littéraires tels que Martine va à la plage ou Martine fait des confitures. Alors mange, s'il te plaît, mange et reviens-nous plus fort pour de nouvelles aventures.
Place publique.
Et merci à Céline Favre pour cette chronique. À bientôt. On passe à toute autre chose à présent. La Poste ne se fait pas que des amis en tâchant de rationaliser ses services. Fermeture d'offices postaux traditionnels dans les régions périphériques, limitation des horaires d'ouverture, concentration de cases postales. Au total, le géant jaune prévoit une cure d'amaigrissement en fermant d'ici ces trois prochaines années quelques 600 bureaux. 1200 collaborateurs sont concernés. L'arc jurassien aussi, bien sûr. Les scénarios les plus pessimistes prévoient par exemple que seuls 8 offices postaux sont sûrs d'être conservés, et 4 dans le canton de Neuchâtel et 4 seulement dans le Jura. Alors la fronde s'organise dans certains villages, certains quartiers. Zeynep Ersan-Berdo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de la rédaction du journal Bon à Savoir. Alors on a l'impression qu'après le refus de votre initiative pro-service public l'année dernière, qui avait quand même enregistré un succès d'estime, la Poste a plus que jamais les coudées franches pour mettre en œuvre son plan de restructuration.
La Poste avait un calendrier, hein, très certainement, très clair. Donc il n'y a pas de surprise dans ce qui est annoncé depuis le refus de l'initiative. La Poste a attendu effectivement que, ou avait peut-être d'autres raisons, mais en tout cas, on a la très forte impression que la Poste a attendu que cette votation, que la page soit tournée pour passer à l'action et puis annoncer 4-5 mois après, donc cet automne, toutes les mesures dont vous venez de parler, effectivement, avec un impact très important, non seulement sur les collaborateurs, qui risquent leur poste, mais sur les collaborateurs qui vont rester, mais qui seront engagés à d'autres conditions, et bien sûr sur l'ensemble des utilisateurs.
La Poste est en dialogue avec les autorités communales et cantonales en ce moment pour trouver un compromis quant à ces fermetures d'offices postaux, mais cela ne l'empêche pas de prendre des mesures, comme par exemple limiter les horaires d'ouverture dans certains offices menacés, ou comme cette semaine, de murer les cases postales de certains guichets pour les centraliser. Est-ce que dans ces conditions, le dialogue sert encore à quelque chose d'après vous ?
Alors le dialogue a été annoncé, hein. La Poste cet automne a clairement dit qu'elle allait faire les choses avec la transparence, en discutant, en dialoguant avec les autorités, c'est très très bien. Pour l'instant, ce dialogue a l'air de se faire très ponctuellement, mais sans chiffres, hein, sans véritable preuve, sans preuve tangible de la baisse de fréquentation de ces guichets. Donc c'est très très difficile pour les autorités de valablement dialoguer avec la Poste, qui en parallèle justement démembre un certain nombre de prestations ou démantèle un certain nombre de prestations pour les proposer à moyennant un paiement supplémentaire. Donc ça, ce sont des mesures qui échappent justement aux discussions avec les autorités et le consommateur, l'utilisateur qui souhaite avoir accès à une prestation, par exemple la distribution du courrier plus tôt le matin, eh bien, pourra l'obtenir, mais moyennant un paiement supplémentaire. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres.
La Commission fédérale de la Poste, la Postcom, a tapé sur les doigts de la Poste, qui n'aurait pas suffisamment consulté les communes concernées par la fermeture d'un office à Crémines. Est-ce qu'il y a là-bas aussi un espoir, une lueur d'espoir pour essayer d'atténuer ces rationalisations ?
Oui, alors effectivement, mais ça revient aux communes. Hein. Elles le font dans les différents cantons, dans le Châtel bien sûr, aussi ailleurs, de s'adresser, de saisir Postcom et puis justement expliquer que finalement le dialogue n'a pas eu lieu ou que les chiffres ne sont pas suffisants. Et à partir de là, Postcom fait son travail et dans certains cas peut justement contraindre la Poste à renoncer à une fermeture. Mais pour ça, il faut qu'il y ait dialogue et il faut aussi que les communes, effectivement, elles-mêmes, se saisissent de Postcom pour déposer une plainte.
Et après le refus de l'initiative, est-ce que les consommateurs ont encore un outil ou des moyens de faire reculer la Poste, de faire pression ?
Le gros problème, si j'ose dire, c'est que la Poste est une entreprise de service public en main de la Confédération entièrement. Il n'y a pas beaucoup dans tous les secteurs, en tout cas il n'existe pas de véritable concurrence. Donc le consommateur est aussi passablement captif, donc c'est très très difficile pour le consommateur de faire pression en se disant s'adresser à une entreprise concurrente. Bien sûr il en existe, hein, dans les livraisons de paquets par exemple, mais c'est pas facile pour le consommateur de faire jouer la concurrence, elle est en quelque part captive et donc subit en quelque sorte les décisions de la Poste.
En même temps, et on va terminer avec ça, on peut développer aussi l'antithèse, hein, Zeynep Ersan-Berdo, la Poste développe le nombre de points d'accès, elle va les faire passer de 3700 à 4000 d'ici ces trois prochaines années, notamment grâce à ces fameuses agences postales qui peuvent remplacer les offices. La Poste qui entend aussi développer des services à domicile ou les automates 24 heures sur 24, sans oublier bien sûr les services en ligne qui nous permettent de faire nos paiements par exemple. Est-ce que pour des raisons émotionnelles, on n'est pas en train de faire un peu un mauvais procès à la Poste ?
Alors, chaque situation doit être analysée pour elle-même. Alors, c'est clair qu'il y a dans des endroits où il y a des baisses de fréquentation manifestes, mais pour ça, il faut que la Poste explique et expose clairement aux communes les chiffres. Effectivement, il y a des solutions qui sont tout à fait intéressantes. Les agences sont une solution intéressante, mais il ne faut pas oublier que toutes les prestations, notamment le retrait d'argent et le paiement, ne sont pas systématiquement disponibles dans ces agences. La Poste organise également des bornes pour les retirer les paquets 24 heures sur 24, hein, MyPost 24, très très bien. Pour l'instant, c'est une solution urbaine et pas périphérique. Donc, des solutions alternatives qui collent aux besoins des consommateurs, c'est tout à fait une bonne chose et c'est bienvenu. Mais chaque situation doit être analysée pour elle-même et pour ce faire, il faut que la Poste soit beaucoup plus transparente que ce qu'elle n'est aujourd'hui et qu'elle ait un dialogue très ouvert avec les communes, aussi de manière à ne pas exclure une partie de la population puisque la Poste a un mandat de service public sur lequel elle peut pas s'asseoir.
Zeynep Ersan-Berdo, merci d'avoir été avec nous dans Place Publique. On va bien sûr suivre l'issue qui sera donnée à ce dialogue avec les autorités communales et cantonales de notre région. Et on vous la fera commenter, cette issue. Merci, vous êtes la directrice donc, de la rédaction du journal. Bon à savoir, bonne soirée.
Merci et bonne soirée.
Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar.
Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido.
Place publique. Et c'est parti pour 5 jours de fête. Le carnaval bat son plein depuis aujourd'hui dans le Jura. On vous le fait vivre, notamment sur RFJ en direct et sur Internet avec des reportages, des photos, des vidéos. Mais d'où vient cette tradition quasi ancestrale? D'où vient cette envie de liesse, de transgression avant de rentrer dans le rang et faire par exemple le carême? Deux invités avec nous pour en parler. Laurence Marty, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et sociologue, vous êtes l'auteur d'une étude notamment sur le carnaval jurassien au 19e et 20e siècle. Vous êtes aussi, vous avez signé des ouvrages, de nombreuses publications dans le domaine de l'histoire industrielle et sociale, notamment dans l'arc jurassien. Et avec nous aussi, Frédéric Lachat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Société du Carnaval du Jura de Basse-Cour. Merci de vous être extrait de la fête pour venir nous en parler. On commence avec vous, Laurence Marty. Le Carnaval du Jura n'a visiblement pas attendu la création de la République et canton du même nom pour avoir lieu dans la région. Alors, des documents le mentionnent déjà à partir du XVIIIe siècle.
Oui, en tout cas, XVIIIe, si pas avant. C'est clair que le Carnaval est une fête qui remonte à plusieurs siècles, voire au Moyen-Âge.
Et qu'est-ce qui nous permet de le dire pour la région jurassienne, précisément?
Alors, pour la région jurassienne, c'est assez difficile de retrouver les traces, mais c'est essentiellement des archives, soit religieuses, soit paroissiales, qui nous donnent des mentions de l'existence du carnaval.
Eh bien justement, vous nous parlez de religion. Le sens du carnaval a fort à faire avec la religion. Il suffit, Laurence Marty, de lire ou d'entendre le petit nom donné au carnaval du Noirmont, Carimontran.
Oui, Carimontran. Donc c'est vrai que bon, le sens du carnaval a beaucoup changé, beaucoup évolué. Et je dirais que pendant très longtemps, il y avait à la fois le sens lié à une vision du monde cyclique, au retour des saisons, donc à la transition entre l'hiver et le printemps, mais aussi, en quelque sorte, le sens s'est mixé avec une signification religieuse qui était le passage, les quelques jours qui précèdent l'entrée en carême.
Frédéric Lachat, qu'est-ce qui reste de tout ça, de cet ancrage qui remonte à très loin, de cette affinité aussi avec le calendrier liturgique?
Ah ben c'est nous, ce qui ressort le plus, c'est vraiment la date. parce qu'on se répète vraiment toujours à ce fameux Mardi Gras, à cet élément-là, donc on est vraiment tributaire de la date, donc ça peut tomber en tout début février, donc le temps est beaucoup plus court pour le préparer, comme cette année on a un petit peu de chance, c'est plutôt en fin février, donc ça c'est le principal reste de cette tradition, qui est selon mes connaissances, qui sont certainement pas aussi importantes que madame.
Là on parle de ressenti, hein, comment ouais, vous le ressentez
Ah ben nous c'est vraiment le fait que la tradition festive, le bonhomme hiver qui est brûlé pour couper la tête à l'hiver, pour amener les bonnes saisons. Donc nous c'est vraiment cet élément-là qu'on essaie de garder aussi ces traditions efficaces, parce que puis surtout intéressantes, parce que les gens ils aiment aussi garder ces traditions tout en ayant ce côté festif, tout en ayant ce côté chatoyant. Puis on met plus trop la religion dessus, mais c'est vraiment le fait qu'on cherchera à garder ça festif la date prévue.
Donc un bon fêtard ne doit pas forcément être un bon croyant. Et inversement.
Voilà. Alors si on veut regarder les traditions, je pense que cette tradition-là est vraiment partie, parce que c'est ouvert à tout le monde. Hein. Je pense pas qu'on est en train de regarder au niveau uniquement croyant pour savoir si c'est le carnaval ou pas.
Laurence Marty, parmi les coutumes qui ont survécu peut-être au Moyen-Âge, vous identifiez lesquelles dans le Jura? Il y a plusieurs spécificités. Est-ce qu'il y a des signes que certaines coutumes encore vivaces aujourd'hui remontent à loin?
Alors, c'est assez difficile à répondre, parce que la plupart des pratiques actuelles sont entre guillemets assez jeunes. Ça remonte au début du 20e, peut-être à la fin du 19e. Et on connaît très mal ce qui se faisait. On sait que le carnaval existait, mais on connaît très mal de quoi il était fait. Donc c'est vrai que des traditions comme le rétiétié, le betché.
On peut expliquer Betché, Rétiétié, c'est des cortèges nocturnes, hein?
C'est des cortèges nocturnes. Alors ça dépend évidemment de chaque village, a un peu sa façon de les faire, mais qui consiste en tout cas dans certains cas à faire le tour des maisons, à faire des quêtes auprès des habitants.
À chasser les filles aussi?
Ouais, pas tellement chasser les filles, non. C'est un cortège plutôt calme.
Il n'y a pas des jeunes célibataires qui vont en habit de sapin? Alors, il faut que vous me détrompiez, hein, mais qui vont chercher les jeunes filles pour les mettre dans la fontaine, alors, dans les franches montagnes?
Ça, c'est pas du tout le betché, le rétiétié, c'est vraiment les sauvages. C'est une pratique propre aux Normands, et qui, oui, alors, consiste à incarner un petit peu les forces mauvaises, sauvages, qui attrapent les jeunes filles. C'est en fait le début du carnaval.
Ça, c'est le début, puis après, il y a le betché dont vous nous parliez, donc oui. Cortège nocturne plutôt plus calme.
Voilà.
Frédéric Lachat, il y a dans le carnaval une volonté justement d'excès, de retournement des valeurs, on met des masques, on se moque de la politique du pouvoir en place. Est-ce que durant ces jours-là, tout est permis?
Alors, officiellement, non. Nous, au niveau du carnaval, on fait quand même un petit peu attention d'avoir des instants, des petits pics pour provoquer, oui, mais on essaiera toujours d'être dans le politiquement correct. Car c'est pas parce que c'est carnaval qu'on peut vraiment tout se permettre. On essaye quand même d'être assez vigilant à ce niveau-là. Mais après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit mot, d'une mauvaise compréhension d'un slogan ou d'un texte. Mais tout est permis. Non, je pense pas. Puis c'est pas le but non plus. Le but, c'est quand même de rester dans ce fameux instant carnavalesque où ça regroupe les gens, où ça associe vraiment tous des groupes, toutes les personnes de l'extérieur qui viennent faire la fête. Vraiment, on reste, nous, l'aspect, c'est vraiment la fête. C'est pas systématiquement l'aspect critique, l'aspect provocation qui fait ça. Donc c'est vrai que les masqués, souvent, ils se libèrent beaucoup plus. Certaines personnes, on les voit qu'à carnaval, ça c'est vrai aussi. Mais c'est peut-être ça qui fait le charme, que heureusement qu'ils ont ça pour sortir, pour voir du monde. Voilà, maintenant, le fait d'être masqué et puis de provoquer les gens, voilà,
c'est pas l'essence de ce rendez-vous, on vous comprend bien. En tout cas, votre commune change de nom, hein, il faut quand même le dire, hein, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le carnaval du Jura, il y a des communes qui changent de nom, d'ailleurs la vôtre, oui. C'est le cas.
Voilà, c'est Patadorf. Alors après, notre maire actuel, il n'aime pas tellement ce terme, mais le terme Pata, c'est l'emblème du carnaval du Jura, c'est le fameux Pata pour la choucroute. Donc on parle de la choucroute, on parle de nouveau cette festivité, c'est cette bouchoyade qui se fait que les gros repas se faisaient à cette période-là pour pouvoir après atteindre le carême. perd tout le gras qui a été gagné pendant l'hiver. Il mange le dernier gros repas maintenant, donc écraser la choucroute avec le pata. C'est devenu l'emblème de Basse-Cour, le pata d'Orf, le pata ville, pata d'Orf.
Et merci pour l'explication de texte. Laurence Marty, le degré de popularité de carnaval a varié selon les années, hein, c'est ce que montre aussi votre étude.
Alors effectivement, il y a eu des hauts et des bas, comme dans toutes les traditions. Je dirais qu'on est plutôt dans une période où le carnaval a retrouvé une certaine popularité, ou en tout cas se porte assez bien.
Une vigueur. De quoi dépend finalement le succès ou non du carnaval ? Apparemment, l'histoire industrielle, l'économie a aussi joué son rôle. Et puis, il y avait plusieurs aussi types de carnaval qui étaient en concurrence.
Alors bon, ça dépend effectivement des époques. C'est vrai qu'à la fin du 19e, on avait des carnavals ouvriers, des carnavals plutôt urbains ou plutôt villageois. On avait des carnavals plus riches. Actuellement, les différences sont plus si énormes. Je dirais que toutes les traditions se sont un petit peu mélangées pour ne former plus qu'un seul carnaval où tout le monde peut participer.
Frédéric Lachat, quel avenir pour le carnaval dans la région selon vous, hein? Ça repose quand même sur des comités d'organisation. Ça a l'air évidemment plein de liesses et plein d'amusement, mais c'est aussi de gros défis au niveau organisationnel. Est-ce que la relève est là? Et puis, est-ce que votre volonté, c'est de maintenir la tradition ou plutôt de renouveler les animations?
Alors ça, c'est un bon dilemme que vous me posez comme question, parce que c'est vrai que pour nous, l'avenir, il y a beaucoup de jeunes qui viennent travailler depuis qu'ils ont 18 ans, ils viennent, ils construisent des chars, après ils vont plus loin, ils font des groupes. Là, ben, dans mon comité, j'ai introduit deux jeunes, un de 19 ans et un de 20 ans dans mon comité. Et pour relancer un petit peu tout ça, on a un comité assez jeune, hein, donc nous on a un comité maximum 42 ans, ce qui fait quand même un âge assez bas par rapport à une telle bastringue, comme on dit chez nous. Après, l'avenir du carnaval, il va se jouer, je pense pas qu'il va se jouer sur la volonté des personnes. Il va se jouer surtout sur les lois et les éléments comme ça, parce que on a de plus en plus de restrictions au niveau des lois. Donc, on aimerait faire genre un feu des brandons pour vous, les boulons hiver. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de permis, de lois, de restrictions qu'on a par rapport à ça. Donc, les libertés perdues, elles commencent à arriver de plus en plus. Alors, c'est pas des nouvelles lois, c'est des lois qui ressortent depuis les tiroirs, qui existaient depuis bien longtemps. Mais actuellement, quand on entend ce qui se passe au fameux retiens, tu en as joie, ils ont commencé à serrer la vis, à ressortir les règlements, puis les lois, puis là, on commence à être vraiment serré à chaque fois à la gorge. On a de plus en plus de restrictions, d'exigences, d'éléments comme ça. Donc ça devient pour nous extrêmement compliqué d'essayer de garder les traditions avec des moments plutôt vraiment très 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 régional, très très familial, tout en se disant qu'on a des frais à côté. Donc pour rentabiliser les frais, on doit faire quelque chose de plus grand. Donc ça devient extrêmement compliqué de gérer et les traditions que moi je souhaite vraiment, en tout cas au carnaval de Basse-Cour, on souhaite vraiment de garder des traditions.
Et le zèle des autorités qui vous parfois mettent, c'est votre impression, voilà, les bâtons dans les roues. On vous a bien compris. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Lachat d'être venu dans Place Publique en pleine fête qui bat son plein. On vous souhaite un excellent carnaval avec plein de monde, du beau temps. Vous présidez donc la Société du Carnaval du Jura de Basse-Cour. À tout bientôt. Et Laurence Marty, merci aussi à vous. On le rappelle, vous êtes historienne et sociologue. Vous avez signé plusieurs publications dans le domaine de l'histoire industrielle et sociale. Et on va signaler justement l'un d'entre eux, puisqu'il vient de paraître aux éditions Alphil. C'est une histoire récente de l'horlogerie suisse des années 80 à 2015, intitulée « Le renouveau horloger ». Laurence Marty, bonne soirée à vous aussi.
Bonne soirée, merci.
Et c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation, Céline Favre pour la chronique humour. Retrouvez cette émission sur nos applications ou sur nos sites internet rjb.rtn.rfj.ch. On se retrouve vendredi prochain.
Place Publique.